Bienvenue sur Parole d'Auteuil, le premier podcast consacré au village du 16e arrondissement. Arrivée ici à l'âge de 20 ans, j'ai eu un véritable coup de foudre pour ce quartier. À tel point que 10 ans après, je n'ai toujours pas envie de le quitter. Pourtant, les clichés sur le 16e, on les connaît tous. Un arrondissement sans âme, où les habitants sont des bourgeois repliés sur eux-mêmes. Des idées préconçues bien loin de ce que je peux voir, entendre, ressentir au quotidien. C'est donc à travers ce podcast que j'ai eu envie de déjouer les clichés. De partir à la rencontre de ceux et celles qui font vivre le village d'Auteuil. Et de partager leur histoire avec vous. On peut dire que Danielle est une femme aux multiples vies. D'abord journaliste, puis professeure d'anglais, elle se reconvertit à l'âge de 60 ans au métier de guide conférencière. Si j'ai eu envie d'inviter Danielle au micro de Parole d'Auteuil, c'est parce qu'elle fait partie des rares guides à organiser des visites dans notre village. Danielle elle-même, qui vit dans le quartier depuis plus de 40 ans, n'a pas tout de suite vu à quel point la visite d'Auteuil pouvait être passionnante. Avec Danielle, nous avons discuté de sa reconversion professionnelle arrivée sur le tard, du cheminement qui l'a amené à créer cette visite sur Auteuil, mais elle va aussi nous révéler quelques anecdotes méconnues sur notre quartier. Restez bien jusqu'au bout de cette conversation, parce que vous ne verrez plus le village Auteuil de la même façon, c'est promis. Bonjour Danielle.
Bonjour.
Alors j'avais très envie d'échanger avec vous pour ce podcast, parce qu'en cherchant des visites guidées sur le village Auteuil, je me suis rendu compte finalement qu'il n'y en avait pas tant que ça. Vous le faites depuis 7 ans maintenant. À votre avis, pourquoi il y a aussi peu de visites guidées dans notre quartier ?
Alors il y en a, on voit des guides qui guident dans le village d'Auteuil, mais ils s'intéressent principalement, ils ne savent pas tous, ou ne s'intéressent pas tous, à l'histoire du village.
C'est-à-dire que le côté architecture est privilégié, mais finalement le côté histoire est un peu délaissé.
Voilà, le côté histoire d'un village est un petit peu délaissé. Pourtant, c'est un peu l'histoire du village quand même qui explique l'architecture. Sans l'histoire d'Auteuil, que moi j'aime bien présenter, j'ai l'impression qu'on ne comprend pas pourquoi il y a ce musée architectural à ciel ouvert à Auteuil. On ne le comprend, je trouve, que si on a déjà compris quelle était l'histoire du village depuis même le XVIIe siècle, puisque ça commence à être intéressant à partir du XVIIe siècle.
C'est ce qu'on va voir. On va voir que l'histoire du village d'Auteuil est très riche. Vous allez nous raconter plein de petites anecdotes, mais pour l'instant, je voulais revenir sur votre lien particulier avec le quartier, puisque vous n'êtes pas seulement guide dans le village d'Auteuil, vous y vivez.
Oui. Alors, on s'est installé à la Porte de Saint-Cloud avec mon mari dans les années 75, et depuis 79, on est installé ici, rue Rémusa, d'abord en face, et puis maintenant ici. Et c'est vrai que c'est une rue qui est agréable.
Quand vous avez vécu à Porte-de-Saint-Cloud, vous m'aviez expliqué que vous étiez arrivé un peu par hasard. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de rester dans le quartier d'Auteuil ?
Alors quand on était vers la Porte-de-Saint-Cloud, au bout de la rue Michel-Ange, on vivait dans 40 mètres carrés. Donc après notre mariage, comme j'étais enceinte, il fallait qu'on ait au moins deux chambres. Donc on a cherché un petit peu partout dans Paris et on a fini par trouver ce qui nous convenait comme quartier, mais en même temps moins cher.
C'est étonnant d'ailleurs, on ne s'y attend pas forcément.
Voilà, c'est contraire, tout à fait contraire à tous les clichés, parce que c'était le seul appartement qui convenait à la fois à un endroit où on était d'accord pour habiter et en même temps qui était dans notre budget, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans d'autres quartiers.
Quand vous avez découvert le village d'Auteuil la première fois, qu'est-ce qui vous a plu ? Quelles ont été vos premières impressions ?
Oui, alors ce qui m'a attiré, c'est effectivement cette impression d'être un petit peu excentré par rapport à Paris. La première fois que je suis venue dans le quartier, je ne connaissais absolument pas Auteuil, mais j'ai été assez séduite. Je suis descendue à Michel-Ange Auteuil et pas à la Porte de Saint-Cloud, et j'ai trouvé que c'était très charmant. On allait rue d'Auteuil, c'était le petit village. Ensuite, on allait au marché Place d'Auteuil, c'était le marché de village. Et puis Jean-Baptiste C, qui avait l'air d'être dans un petit palais, dans un petit château. Et j'ai trouvé que c'était à la fois habiter Paris et à la fois être un petit peu en dehors de l'agitation et de l'animation trop bruyante de Paris.
Vous me disiez aussi que vous gardiez de très bons souvenirs de la rue Michel-Ange, là où vous avez vécu avant.
Oui, j'aimais beaucoup ce petit coin comme ça de l'avenue de Versailles, qui était très commerçant. En bas de chez moi, quand je me suis installée, il n'y a plus maintenant, mais il y avait une épicerie russe. Donc, comme je suis en partie d'origine russe, je descendais parler avec l'épicière, qui était une russe blanche, descendante de nobles, d'aristocrates russes. Et donc, on parlait un petit peu. Elle vendait les harengs et elle vendait tout ce qui avait un peu bercé mon enfance. Quand je me promenais le samedi, il y avait un cinéma à l'époque dans la rue. Quand j'étais toute seule, j'allais voir un film. C'était un quartier très agréable et très très vivant.
Quand on a préparé cet échange, vous m'aviez dit aussi que ça pouvait vous perturber d'habiter le 16e arrondissement à cause de l'image que ça renvoyait.
Oui, c'est vrai que maintenant, je n'hésite plus à donner mon adresse avec 75016. Mais c'est vrai que quand je me suis installée rue Michel-Ange, je voyais tout de suite un sourcil se lever. Il fallait souvent que j'ajoute, mais j'habite au sud du 16e arrondissement, c'est très populaire.
Vous m'avez même dit, même pour vous paraphraser, vous me disiez que le 16e était connoté prout-prout.
Oui, c'est ça. Je vois que vous avez tout noté.
Et même vos collègues vous embêtaient avec ça, d'ailleurs, le fait que vous habitiez dans le 16e.
Un petit peu, oui, la bourgeoise du 16e. Ça faisait rigoler certains de mes collègues, oui, de voir que, bon, comme en plus j'avais une allure assez petite bourgeoise, ça faisait rigoler mes collègues de voir que je ressemblais à mon quartier.
Oui, et vous me disiez que ce n'était pas seulement les clichés sur le 16e qui vous perturbaient, mais que vous ne vous sentiez pas forcément à votre place, que vous n'étiez pas à l'aise.
En attendant les enfants à la sortie de l'école, je voyais les jeunes femmes qui, pour beaucoup, avaient déjà été élevées dans le 16e arrondissement, qui je connaissais quelquefois même depuis l'enfance elles-mêmes. Je me souviens que je ne me sentais pas comme elles. Du coup, on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt. Et c'était difficile pour moi de m'intégrer et de communiquer.
En fait, vous vous sentiez en décalage avec les autres mamans.
Effectivement, je n'avais pas le sentiment d'être ancrée de la même manière dans le 16e arrondissement que les autres mamans.
Et puis par la suite, ce sentiment que vous aviez, ce sentiment d'être en décalage, bah, ça s'est peu à peu estompé, notamment grâce à une initiative que vous avez lancée avec d'autres mamans de l'école de votre fils.
Quand mon fils est rentré en 6e, on était plusieurs mamans dans le quartier, nos enfants ne voulaient pas aller à la cantine. Et donc on s'était arrangé à quatre mamans. On emmenait les enfants des uns et des autres pour qu'ils déjeunent. Bon, moi, c'est mon jour, c'était le mardi. Une autre qui habitait l'immeuble, c'était le lundi. Et nous, on a décidé avec les parents de faire des repas les uns chez les autres, justement, pour mieux faire connaissance. Les enfants nous parlaient des repas qu'ils mangeaient chez les uns et chez les autres. C'était devenu une curiosité et ça nous a permis de nous apercevoir aussi que nous avions des centres d'intérêt en commun avec d'autres parents du quartier. C'était des gens avec qui on est restés amis, d'ailleurs, encore maintenant.
Et ce que j'avais envie de savoir aussi, c'est vous qui connaissez le quartier depuis plus de 40 ans maintenant, est-ce que vous trouvez que le quartier a évolué? Le cliché où on voit Auteuil comme un quartier très bourgeois, finalement, c'est moins vrai aujourd'hui.
Oui, j'ai l'impression effectivement que le quartier est beaucoup moins. Si on dit qu'on habite à Auteuil, c'est toujours connoté. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus bohème, un petit peu plus bohème. J'ai l'impression que c'est plus détendu. Les gens sont plus détendus.
Vous diriez que les gens se mélangent plus qu'avant finalement? Parce qu'on dit souvent dans le 16e que les gens restent entre eux, qu'il y a un entre-soi.
Même à l'époque, c'était déjà mélangé, mais c'était mélangé. Toujours, on a l'impression que ce sont des gens de bonne volonté, des gens ouverts et qui n'ont pas. Peut-être qu'ils ont des a priori, mais tout le monde en a. Donc, nous, on en a probablement aussi sur d'autres gens. On se parle, on essaye de se connaître un petit peu dans l'immeuble, dans le quartier, sans difficulté.
Alors Daniel, on peut voir que vous êtes une personne très curieuse et ouverte d'esprit, des qualités qui vous ont permis d'exercer le métier de journaliste puis de professeur d'anglais pour finalement vous reconvertir à l'âge de 60 ans au métier de guide conférencière. Je me demandais quel a été le déclic, comment vous avez décidé de commencer une nouvelle carrière?
Bah, quand j'ai su que j'allais prendre ma retraite, je me suis dit que j'étais beaucoup trop jeune d'abord pour arrêter de travailler. J'ai quand même travaillé toute ma vie, puisque j'ai commencé à donner des cours d'anglais très jeune pour gagner mon argent de poche. Et tout d'un coup, je me disais, je vais pas rester assise sur mon canapé à attendre que le temps passe. Et donc, un beau jour, je me suis dit, tiens, puisque j'aime tant Paris, pourquoi est-ce que je ne verrais pas s'il y a des études à faire pour devenir guide? J'ai cherché sur Internet et je suis tombée sur cette école dans laquelle on enseignait pour être guide. C'était les cours du soir.
Ça vous a beaucoup plu, ces cours de guide?
Les cours de guide m'ont enthousiasmée. J'avais l'impression que c'était la première fois que j'étais entièrement dans quelque chose qui me convenait. C'est-à-dire que c'était à la fois l'art, la beauté de Paris, il y avait l'histoire de Paris, l'histoire des gens, et puis on avait deux professeurs qui nous emmenaient dans des musées. Et j'avais l'impression de découvrir un paradis. Je n'ai pas d'autre mot. J'étais sur un nuage, c'était vraiment le paradis, ces cours.
Cette formation, elle a confirmé votre passion pour Paris?
Paris pour l'art, parce que j'adorais l'art, mais je n'y connaissais rien. Je ne savais strictement rien, je ne pouvais pas découvrir une façade architecturale, savoir d'où elle venait. Et les tableaux que je voyais, je pouvais regarder un tableau, mais je ne savais pas regarder un tableau. Je ne savais pas ce qu'il fallait y chercher, je ne connaissais pas l'histoire des peintres. J'ai découvert pas mal de peintres aussi d'ailleurs, et de sculpteurs. C'était un bonheur absolu.
Et est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née cette passion pour Paris? Vous m'aviez dit que c'était une passion qui était venue un peu sur le tard.
Oui, c'est vrai. Quand j'étais petite, mes parents nous sortaient très peu. Ma sœur et moi, on habitait rue d'Assas, en face du Luxembourg. C'était déjà une belle partie de Paris. Mais on connaissait vraiment très peu de choses de Paris.
Qu'est-ce qui a changé alors? Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de partir à la découverte de Paris?
Quand j'avais 19 ans, j'avais un petit ami à l'époque. C'était juste avant 68. Sa grande passion, c'était de marcher dans Paris. Et du coup, grâce à lui, avec nos promenades, on traversait Paris de part en part, et c'est un peu comme ça que j'ai découvert Paris.
C'est une jolie manière de découvrir Paris, en tout cas. Votre passion pour Paris est donc née comme ça, et puis vous avez essayé de la transmettre à votre entourage quelque part.
Oui, j'avais des membres de la famille qui venaient de l'étranger, qui venaient de province. Je préparais un tout petit peu le parcours pour ne pas être prise au dépourvu quand ils me demandaient d'autres monuments, les monuments devant lesquels on passait. C'était toujours un plaisir de découvrir et de faire découvrir un autre quartier de Paris.
Et d'ailleurs, c'est en rentrant de voyage, vous m'aviez raconté que vous étiez dans un taxi et vous vous êtes dit quelque chose de bien précis. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'était ?
Ben pareil, je devais avoir 22 ou 23 ans et j'étais allée à Athènes où j'avais passé un mois chez une de mes cousines à Athènes en Grèce. Et je prends mon taxi pour revenir de l'aéroport. On longe les quais de la Seine assez tôt le matin. Il devait être 8h, 9h du matin. Je longe les quais de la Seine et je me dis, mais je suis partie si loin. J'ai vu de si belles choses, mais il n'y a rien comme Paris. J'aime Paris d'amour.
Alors, comme on peut l'imaginer, vous avez validé votre formation de guide haut la main. Est-ce que vous avez décidé de vous lancer tout de suite en tant que guide ou vous avez attendu un peu avant de faire vos premières visites guidées de professionnels finalement?
J'ai réussi cet examen, je crois que ça devait être au mois de mai, mais j'avais un peu honte parce que mes professeurs étaient d'une telle qualité que je me suis dit jamais j'arriverai à leur niveau. Et je me suis dit jamais, jamais, d'abord j'aurai la mémoire et ensuite jamais j'arriverai à faire admirer tant de choses dans Paris, à avoir une visite aussi riche que lui. Et j'ai une amie, donc ça devait être en septembre ou octobre, qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu attends pour te lancer ?» Et je lui ai dit « Mais écoute, jamais je serai à la hauteur, jamais je pourrai le faire. » Et elle m'a dit « Mais tu n'as pas fait 2 ans d'études aussi exigeantes, tu n'as pas passé un examen qui est aussi difficile pour ne pas le faire. Et qu'est-ce que tu vas faire là maintenant? Tu vas rester assis sur ton canapé, attendre que ça se passe comme ce que tu redoutais ?» Et du coup, je me suis dit « Il faut que je me lance dans une visite » que je n'ai pas faite avec mon professeur, pour que ma première visite soit une visite à moi. Et du coup, ma toute première visite avec 8 copines, voilà, j'ai fait les Tuileries. Et alors, j'avais décidé de les faire payer.
On va expliquer pourquoi. Vous aviez décidé de les faire payer parce qu'avant ça, il y avait eu une visite qui avait été un peu un fiasco, hein, c'est ce que vous m'aviez dit.
Oui, qui était un peu un fiasco. On était partis avec 3-4 copines et j'avais préparé avec beaucoup de travail la visite du musée Cognac-G. On était allés ensemble comme ça, évidemment sans que je les fasse payer. Et puis je m'étais aperçu que tout mon travail, au bout d'un quart d'heure de visite, on s'était mis à parler de nos enfants, on s'était mis à parler d'un dîner, « Ah, toi, tu fais tel plat comme ça », et devant les tableaux, et j'étais un peu déçue. Et du coup, je m'étais dit « Voilà, la seule solution, c'est de les faire payer ». Et c'était agréable de voir l'attention, effectivement, de voir que tout le monde était attentif.
Alors après cette mésaventure, vous avez donc fait cette visite des Tuileries qui s'est très bien passée, on en parlait tout à l'heure. Et puis seulement un mois et demi après, vous avez eu une bonne surprise pour l'une de vos visites au Quartier Latin.
Oui. C'est une visite qui était un peu longue. Je l'ai aussi beaucoup raccourcie depuis. Et j'avais donné rendez-vous à la sortie du métro Cluny, devant les grilles du musée de Cluny. Et je sors du métro. Quand j'ai regardé qui y avait, je me suis aperçue qu'il y avait 20 personnes.
Vous me disiez que quand vous avez vu tous ces gens à la sortie du métro, vous vous êtes dit, bah finalement, j'ai pas été si mauvaise que ça.
Quand j'ai vu tout ce monde-là, ça m'a fait vraiment plaisir parce que bon, les 8 m'avaient écrit pour me dire c'était super bien, c'était super sympa, bravo, parce que j'avais eu un trac. C'était absolument épouvantable le trac que j'avais. J'étais persuadée que je n'arriverais pas à sortir un mot. Et finalement, bon, j'y étais arrivée quand même.
Et ce trac, il est toujours là, même encore aujourd'hui.
Encore aujourd'hui, oui. J'ai toujours le trac. Je n'arrive pas à m'en empêcher. Surtout maintenant, quand ce sont des gens que je ne connais pas. J'ai toujours peur d'oublier quelque chose, toujours peur de mal faire quelque chose, de pas plaire. Et oui, là, hier, j'ai fait la visite de Montparnasse que je fais depuis à peu près 10 ans, que je connais par cœur. Et je suis arrivée en tremblant. Le trac s'en va au moment où je commence à dire bonjour.
Comme les comédiens, comme quand ils sont sur scène.
Quand on rentre sur scène, voilà, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, je dis bonjour justement parce que ça m'enlève le trac. Enfin bon, il faut dire bonjour pour être poli, mais je dis bonjour, j'espère que cette visite va vous plaire et va vous amuser. Mais c'est ça qui m'enlève le trac.
Alors, on en parlait au début de notre échange. Vous organisez des visites guidées dans différents quartiers de Paris, mais aussi des visites guidées du village d'Auteuil. Et moi, ce que je me demandais, c'est comment vous avez eu cette idée?
Je cherchais des nouveaux quartiers dans lesquels il y a des histoires à raconter. Et une de mes amies, un jour, avec qui je bavardais, m'a dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas Auteuil ?» Et je ne savais pas à ce moment-là qu'il y avait autant de choses intéressantes à voir à Auteuil. Et j'ai commencé à ce moment-là à m'intéresser à Auteuil. Et puis j'ai vu...
C'est ça, excusez-moi de vous interrompre, c'est quand même ça qui est fou. C'est-à-dire que vous viviez à Auteuil, et même vous qui êtes guide, vous n'aviez pas forcément vu au premier abord toutes ces choses à raconter.
Oui, je ne savais pas, c'est en me promenant. Et d'ailleurs, il y a d'autres choses que je n'ai pas dans ma visite, et que j'avais découvertes à Auteuil, et qui sont aussi très très intéressantes. Des lieux qui sont tout étonnants, et j'ai dû éliminer certaines choses, comme à Montmartre d'ailleurs, j'ai dû éliminer aussi pas mal de choses.
Justement, est-ce que vous pouvez nous parler d'un lieu qui ne fait pas partie des visites d'Auteuil, un lieu que vous avez dû éliminer juste pour ceux qui nous écoutent?
Ben oui, je me souviens plus très bien où c'est parce que j'ai préparé cette visite il y a 7 ans. La première fois que je l'ai faite, que je me suis promenée, c'était toute seule, et la deuxième fois, c'était avec une amie. Je lui ai dit, il faut que je reprenne un petit peu, voilà, mon itinéraire, et puis on cherchait des nouvelles rues, des nouveaux endroits. Et là, tout d'un coup, il me semble que c'est au niveau de la rue Raffet, mais je ne peux pas l'affirmer à 100%. On voit un petit chemin de terre, et on se met à monter, et on a eu l'impression d'être à la montagne, et plus du tout d'être dans Paris. Et il y a plusieurs hôtels particuliers, que j'ai dû éliminer aussi, parce que les riverains n'avaient pas envie d'avoir des visites guidées. J'ai dû aussi choisir de ne pas faire vers la porte de Saint-Cloud, d'aller vers la porte de Saint-Cloud, le boulevard Exelmans, alors qu'il y a quand même beaucoup de choses aussi à voir. Il y a pas mal de maisons d'Hector Guimard, il y a la villa Boileau, il y a la villa de la Réunion. Donc il faut à un moment donné se dire je peux pas tout faire.
Oui, donc ça montre qu'il y a énormément de choses à dire sur le village d'Auteuil, alors que, bah, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de guides qui font la visite du village d'Auteuil. En tout cas, le côté historique.
Historique, voilà. Moi, j'aime bien quand même raconter la vie des gens. J'aime faire vivre les pierres. C'est quand même comment ils ont eu l'idée, comment ils se sont installés, qui m'intéresse plus encore que de dire, voilà, il y a les fenêtres comme ci, l'architecture est comme ça. Je le montre, mais ça m'intéresse moins.
C'est justement ce que je trouve intéressant par rapport aux guides qui vont beaucoup nous parler de l'architecture de certains immeubles. Vous allez aussi nous parler de l'histoire du village et ça, c'est pas commun.
On en voit beaucoup dans l'avenue Théophile Gautier, rue Lafontaine. Je me souviens pas avoir vu des guides dans la rue d'Auteuil, par exemple.
Ce que je me demandais aussi, c'est comment on réussit à accumuler autant de connaissances sur un quartier et surtout comment vous arrivez à trouver des anecdotes que les visiteurs ne vont pas connaître.
Quand vous commencez à chercher, alors il ne faut pas rester sur la première page de Google, il faut aller vers un lien, puis vers un autre, puis encore vers un autre. Il faut se promener le nez en l'air pour regarder parce qu'il y a des plaques. Donc qui est ce bonhomme? Tiens, il y a Olympe de Gouges qui habitait là, j'avais jamais découvert. Qu'est-ce que c'était Jean-Baptiste C'est avant? Et c'est à ce moment-là que ça devient intéressant, parce que c'est à ce moment-là qu'on cherche, qu'on fouille dans des livres, qu'on... et aller fouiller, aller même quelquefois chercher dans le cadastre.
Mais on peut dire que vous-même, vous avez été surprise de découvrir autant de choses sur le village d'Auteuil, finalement.
Oui, j'habitais à Auteuil quand même depuis plus de 30 ans. Et je connaissais ce que connaît tout le monde. Je voyais ce que voyait tout le monde. Il y avait quelques maisons qui m'interpellaient. Mais c'est vrai que je ne savais pas qu'il y avait autant de choses à Auteuil. Et en plus que j'allais être obligée d'en éliminer en faisant une visite, ce qui est toujours un crève-cœur.
Vous m'avez dit tout à l'heure, ce que j'aime, c'est faire vivre les pierres. Et on peut dire que c'est particulièrement le cas à Auteuil.
Oui, c'est le cas particulièrement à Auteuil, parce que Auteuil, depuis le XVIIe siècle, a été habité par des personnages spéciaux. Et les écrivains du XVIIe siècle, les poètes du XVIIe siècle avaient leur maison de campagne à Auteuil. Il y avait la maison de Racine, la maison de Boileau, la maison de Molière. Pendant la Révolution, Louis XV avait un château à l'angle de la rue Erlanger. Et il faisait des séjours très prolongés, grâce à cause de l'air, à cause des laiteries qui étaient là, qui avaient un lait de bonne qualité, et de l'eau ferrugineuse qu'on lui faisait boire et qui le renforçait.
On va expliquer pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'eau ferrugineuse. L'eau ferrugineuse, c'est une eau qui est très riche en fer et donc c'est ça qui le renforçait. Mais qu'est-ce qui faisait que l'air était si particulier à Auteuil?
L'air à Auteuil était particulier parce qu'on était en plein bois. Il y avait des arbres, beaucoup d'arbres, et puis la qualité de l'eau était aussi exceptionnelle. Il y avait la rue de la Cure, la rue de la Source, la rue de la Fontaine, qui est devenue après la rue, pour le poète, la rue de la Fontaine. On venait en cure à Auteuil. Et donc à Louis XV, ensuite au moment de la Révolution, on venait se réfugier à Auteuil parce que c'était loin de Paris et d'abord ça coûtait moins cher que Paris d'y habiter et ensuite on était moins exposé aux aléas de la Révolution.
Donc déjà à cette époque, Auteuil était considéré comme éloigné de Paris.
Non mais à cette époque-là, Auteuil n'était pas Paris. Auteuil n'est rentré dans Paris qu'en 1860 avec Haussmann.
Et ce château de la rue Erlanger, alors qu'est-ce qu'il est devenu?
Il a été détruit au 19e siècle. Ça fait pas si longtemps que ça. Je crois qu'il en reste des petits bouts. Si on se promène rue Erlanger, il y a des petits bouts de ce château qui existent encore.
On va ouvrir l'œil alors quand on passera dans la rue Erlanger. Il y a un autre lieu que vous tenez particulièrement à présenter pendant vos visites. C'est l'hôtel de Verrières. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
C'était un château qui appartenait d'abord à une comédienne et ensuite aux demoiselles de Verrières, qui étaient un peu comme des courtisanes. Elles avaient créé un théâtre, et comme on était en dehors de Paris, c'était un théâtre un peu libertin. Et donc elles invitaient les gens du village à venir assister aux pièces de théâtre, qui étaient un peu, un peu libertines.
Ah oui, on jouait des pièces libertines à Auteuil.
Oui, c'était des pièces de théâtre un peu libertines, un peu lestes, qu'on avait le droit de jouer parce qu'on n'était pas dans Paris. Dans Paris, il y avait des décrets qui empêchaient de jouer certaines pièces. Quand on voulait assister à une pièce de théâtre un peu leste, on y assistait soit au Palais Royal, qui était un endroit indépendant, soit en dehors de Paris. Et en dehors de Paris, ça pouvait être Auteuil, et c'était très souvent Auteuil.
C'est quand même incroyable de savoir qu'il y avait un théâtre au cœur du village d'Auteuil. Il était où exactement ce théâtre?
Juste avant d'arriver au Monoprix, il y a une grille où on voit un château, mais à l'intérieur, il y avait un grand jardin, un immense jardin, et dans ce jardin, maintenant, il y a un bassin. J'ai pu y rentrer une fois pour voir à quoi ça ressemblait, mais à la place du bassin, il y avait un théâtre qui était à moitié enterré. Et on pouvait y accéder soit par l'extérieur, soit par l'intérieur du château des Demoiselles de Verrières.
C'est-à-dire par l'intérieur du château, qu'est-ce que vous voulez dire?
Par l'intérieur, c'est-à-dire que s'il pleuvait, on n'était pas obligé de passer par l'extérieur puisque c'était en plein milieu du jardin. Il y avait un couloir en sous-sol qui amenait directement au théâtre.
C'est vraiment très surprenant d'apprendre tout ce qui pouvait se passer à Auteuil à cette époque-là. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule à être surprise par la richesse du quartier. Vous m'aviez parlé de visiteurs qui ne connaissaient pas du tout Auteuil et qui, eux aussi, avaient été vraiment étonnés.
Oui, voilà. Une dame qui avait été un peu réticente, d'abord parce que Auteuil était un peu excentré. Elle habite de l'autre côté de Paris. Et en quittant la visite, elle m'a dit « Je n'avais pas la moindre idée que Auteuil pouvait être un quartier aussi intéressant. » Elle dit « Pour moi, Auteuil, c'était simplement un quartier un peu bourgeois dans le 16e arrondissement, Neuilly-Auteuil-Passy. c'était un quartier où nécessairement il ne pouvait rien y avoir d'autre que des maisons bourgeoises comme vers le Trocadéro où des gens aisés habitaient, mais j'imaginais pas une minute qu'il pouvait y avoir eu des histoires aussi romanesques à raconter.
J'imagine que c'est gratifiant d'avoir ces retours positifs.
Oui, très. Quand quelqu'un me dit, comme à la dernière visite d'Auteuil, j'ai été élevée rue du Docteur Blanche et je n'étais jamais rentrée dans la Villa Malestévins, je n'étais jamais allée au fond du petit chemin qui a là, je ne soupçonnais même pas qu'il y avait ça. Oui, c'est très gratifiant. Et là, pareil, à Auteuil, il y a beaucoup de gens qui me disent, je passe devant et il y a un monsieur d'ailleurs qui est venu à la première visite d'Auteuil que j'ai faite pour le quartier d'Auteuil. Et il m'a envoyé un mot il n'y a pas longtemps où il a dit « Depuis cette visite, je lève le nez pour regarder les façades alors qu'avant, je n'avais jamais levé le nez. »
C'est ça aussi que je trouve fantastique, c'est qu'avec vos visiteurs, il y a des liens qui se créent.
Il y a des liens qui se créent, oui. Bon, je garde beaucoup de liens avec les gens. Cette dame, le matin même de la visite, elle m'a téléphoné que son mari avait été hospitalisé. Je l'ai croisée récemment, puis je lui ai envoyé un mot pour savoir comment allait son mari. Moi, j'essaye de me souvenir, et puis je sais que les gens se souviennent aussi de certains aspects que je peux raconter qui sont un peu plus personnels.
Et ces liens qui se créent, j'imagine que ça doit être encore plus le cas avec les habitants d'Auteuil, puisque vous vivez à Auteuil.
Quand les gens ont le temps, presque toujours après les visites, les gens n'ont pas toujours le temps parce que les visites sont longues, je propose de prendre un verre ensemble, ce qui me permet de connaître les gens. Et quand c'est des gens d'Auteuil, ça me fait plaisir de les recroiser, de les re-rencontrer, de bavarder avec certaines d'entre elles.
Alors Daniel, on arrive bientôt à la fin de notre échange. Pour terminer, je voulais que vous nous parliez du lieu que vous préférez dans le quartier. Je sais que ça ne doit pas être facile de choisir, mais si vous deviez n'en retenir qu'un, ce serait lequel ?
Bah écoutez, je crois que c'est le premier endroit qui m'a surprise quand je me suis installée ici, rue Rémusa, c'est le Castel Béranger. Le Castel Béranger qui est au bout de la rue La Fontaine, pas très loin de la maison de la radio, et qui est un endroit tout à fait étonnant, et qui a été la première construction d'Hector Guimard. Et Hector Guimard n'était absolument pas connu. C'était une veuve qui avait acheté ce terrain dans cet endroit qui était mal famé, et elle a demandé à un ami de lui trouver un architecte qui soit pas connu, parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer un architecte connu, pour lui construire cet ensemble de maisons. Donc cet ami lui a présenté Hector Guimard, qui lui a construit cette maison tout à fait extraordinaire, où il y a des hippocampes qui grimpent le long des murs, il y a une partie qui est en pierre de taille, une partie qui est en pierre de meulière, une partie qui est en brique, et ça a été construit pour être une habitation à bon marché, parce que comme c'était un endroit perdu et où personne ne voulait aller habiter, c'était la zone. Et alors maintenant, c'est classé monument historique, et c'est un endroit tout à fait spécial. Chaque fenêtre est différente, enfin c'est fabuleux, c'est original, c'est rigolo. C'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup.
Eh bien, pour découvrir le Castel Béranger et les autres pépites du village d'Auteuil, vous pouvez contacter Daniel sur sa page Facebook, Le Paris de Daniel M. par Daniel Malka. Vous trouverez toutes les informations dans les notes du podcast et surtout, vous pouvez déjà la contacter si vous voulez participer à la prochaine visite du village d'Auteuil. Avec le contexte sanitaire, les visites sont en pause pour le moment, mais on espère une reprise très prochainement. Merci encore, Daniel, pour cet échange passionnant qui nous a permis de voir le village d'Auteuil autrement. Merci à vous de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Paroles d'Auteuil.
Merci, Laura.